enveloppés par les érables.
Ça, c'est des arbres qui, par exemple, se vivent à côté de nous. On parle de presque 200 ans.
Les érables, ça donne... ça donne que c'est
comme les piliers de ma cathédrale. C'est dimanche aujourd'hui. Alors, je suis à la messe de l'érable. C'est ça, la grande messe de l'érable.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce dimanche, à la grande messe de l'érable, c'est Pierre Fauché qui tient l'office, ouvrant à sa manière ce grand voyage qu'on vous propose aujourd'hui. Direction le Canada, autour de Montréal, et surtout autour de l'érable, cet arbre de vie et d'eau sucrée qui a façonné les paysages, la culture et le goût du Québec, avec son fameux nectar, le sirop d'érable. Avec sa grosse barbe blanche, sa ceinture fléchée et sa chemise à carreaux rouges, Pierre Fauché n'a pourtant rien d'un curé de campagne. Il ressemble plutôt à un genre de trappeur ou de Père Noël des montagnes qui aurait glissé dans sa hotte des cannes, des conserves de sirop et autres bonbons à l'érable. Justement, sa sucrerie, blottie dans la forêt à 30 minutes de Montréal, s'appelle la sucrerie de la montagne. Et depuis des décennies, cette institution touristique et culturelle partage, comme d'autres cabanes à sucre, la grande tradition du temps des sucres. Un moment typiquement québécois où l'on récolte l'eau d'érable pour en faire du sirop. Au Québec, le temps des sucres bat son plein. Et nous, à Si loin, si proche, on avait envie de partager avec vous le goût sucré de ce pays où l'on s'est rendu. À l'été, on retrouve Pierre Fauché.
Ça, c'est un feu de bienvenue pour... les gens qui y arrivent. Ça fait 46 ans que le feu brûle sous le chaudron ici. Un feu d'accueil.
Et vous accueillez beaucoup de monde ici à la sucrerie de la montagne parce qu'il y a toutes ces cabanes où on peut venir justement pendant le temps des sucres, même là l'été où on peut venir profiter d'un repas, profiter de la forêt, de toutes les érablières. Ouais. Vous accueillez combien de personnes? Des gens du monde entier?
Oui, le monde entier, parce que j'ai fait la communication dans le monde entier. Avec l'ambassade du Canada, les délégations du Québec dans le monde, avec les lignes aériennes qui participent aux industries touristiques. C'est-à-dire, dans les années 80-90, on faisait des événements québécois dans toutes les parties du monde entier. Les musiciens, le folklore, le repas, goûter les menus, aussi montrer notre culture. Ça, c'était tellement important pour moi. C'était tellement important dans les valeurs de mes parents aussi.
Et alors, vous avez parlé de cathédrale, vous avez construit beaucoup quand même ici, parce qu'il y a combien de cabanes tout
autour? Quand
j'ai
commencé en 1978, il y avait une cabane à sucre, où on faisait sirop d'érable, une petite cuisine, pas d'eau courante. On allait chercher l'eau à la source avec une pompe, et puis on servait les gens de cette façon. Et puis, d'année en année, j'ai amélioré mon produit, tout en gardant la tradition.
Oui, parce que là, c'est que des maisons en rondin de bois. Tout est en bois.
Tout est en bois. C'est les premières maisons de la région il y a 200 ans. Tout ça, ça fait que c'est vrai.
Et vous savez combien vous avez d'arbres ici?
Je fais environ 2500 entailles. Les entailles, c'est un trou dans l'érable, on accroche un seau. Ça fait que... c'est probablement dans la proximité, mettons une couple de mille érables. Là. Et puis, juste à côté, j'ai un autre 20 hectares de terre qu'on est en train de faire un grand ménage pour laisser les érables prendre force pour la prochaine génération.
Donc en tout, ça fait quelle superficie, toute votre forêt, toute l'érablière?
Environ 30 hectares. Au Québec, c'est pas gros, là. 30 hectares. Mais pour moi, c'est bien. C'est juste bien.
Ben surtout, je crois savoir que l'eau d'érable, vous la récoltez à l'ancienne.
Oui.
C'est que c'est pas avec appelle des tubulures, qui sont des petits tubes où on fait une pression et où on pompe en quelque sorte l'arbre. Vous attendez que ça goûte.
C'est ça. avec les nuits de gel, jour de dégel, les gouttes tombent dans le seau. Là, il faut aller chercher l'eau d'érable dans 1,5 mètre de neige au mois de début mars. Après ça, ça fond. À mesure que le printemps se passe, mars, avril, et puis c'est là qu'il vient à peu près 25 000 clients à 30 000 clients, le février, mars, avril, à fêter le printemps.
25 000?
Yeah. Oui. C'est la clientèle régulière, entre guillemets, qui revient avec les générations. Vous vous rendez compte comme c'est beau? C'est l'aspect retrouvaille dans la forêt d'érable qui apparaît. C'est magique. C'est le printemps. C'est ça. C'est la résurrection de la nature. C'est ça qui est magique. À part ça, dans la cabane à sucre, on fait bouillir l'eau d'érable.
Elle est juste là, d'ailleurs.
Elle est juste là,
on peut aller
ça.
La voir?
Oui, elle est là. Elle est là, je vais vous montrer ça.
Ah, on arrive dans l'antre avec le fameux évaporateur, la grande cuve en inox qui trône au milieu.
Ouais, ça c'est la cabane à sucre qu'on appelle. C'est là où se fait le sirop d'érable. Au printemps, au mois de mars, on va faire un trou dans l'arbre avec un vilebrequin, machin. Pas plus profond que ça, pas plus profond, juste passer l'écorce au début de l'aubier. On met de la goudrelle dans l'entaille. La goudrelle, c'est ce que vous voyez là, c'est un petit machin très fin.
Une petite pointe qu'on met dans le trou, dans le tronc de l'arbre.
Dans l'entaille. Tu vois les petits trous là qui reçoivent l'eau d'érable. Nuit de gel, jour de dégel, la sève monte et tombe dans le seau. C'est de l'eau. C'est de l'eau d'érable. Il y a 2% de sucre environ là-dedans. Puis on entaille tout le temps. Le printemps nous est annoncé. Dans le dernier quartier de la lune de mars. C'est la lune des sucres. Les Amérindiens appelaient ça la lune sucrée. Parce que c'est quand même les Amérindiens qui nous ont montré comment faire le sirop d'érable. Quand on est arrivé au pays, nous étions comme on ne savait pas. Les ancêtres étaient un peu perdus. On était bien, très bien reçus par les nations amérindiennes qui nous ont montré les secrets des bois.
Merci.
Alors,
Kwai.
Bonjour.
Kwai.
Oui, donc Kolipayo, bienvenue à la Maison autochtone. Donc la Maison autochtone qui est un musée multination, mais on célèbre le fait qu'on est situé sur Ndakina, qui est le nom du territoire ancestral de la Première Nation Abénaki. Et chez les Abénaki, il y avait une tradition d'accueillir tous ceux qui venaient nous rendre visite avec un chant. Les paroles à la chanson signifient « Bienvenue mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous respecter ». Je vais vous aider et je vais partager.
Et alors, ce qu'on va partager, c'est l'histoire, justement, de l'érable et de cette eau d'érable, une eau de vie pour les colons qui sont arrivés, mais d'abord, évidemment, pour les autochtones qui étaient là avant.
Oui, tout à fait. C'est une tradition qui est bien ancrée chez les peuples qui sont dans la vallée du Richelieu, ici, dans la région, qui sont au Québec. Donc, c'est une tradition qui remonte à plusieurs millénaires. Et qui est tout d'abord partagé autour des légendes également.
On rentre dans le musée?
On peut aller du côté du musée. Donc, je m'appelle Audrey Renaud. Je suis responsable des services administratifs et éducatifs à la Maison autochtone de Mont-Saint-Hilaire depuis maintenant 11 ans.
Le musée comporte trois expositions. La première, l'exposition temporaire qui met en valeur les peuples autochtones, un pan de l'histoire et de l'art autochtone. Vous avez un espace dédié à l'artiste Jean-Paul Riopel, pour qui la mission du musée était très, très importante ici, qui croyait beaucoup donc à mieux faire connaître les Premières Nations. Et finalement, notre exposition permanente, celle qui se nomme « De l'eau à la bouche » et qui est là pour vraiment parler du temps des sucres.
Alors peut-être en préliminaire, ce qui est important de dire, c'est qu'évidemment, il y a cette origine autochtone. Comment est-ce qu'on sait, justement, comment les autochtones ont découvert l'eau d'érable?
Oui, bien, chaque nation possède sa légende. Une qu'on aime beaucoup, c'est une légende qui nous raconte que Nokomi, la grand-mère terre, avait mis dans les érables directement le sirop d'érable. Lorsqu'on en taillait au printemps, eh bien, le sirop coulait à flot, on avait simplement à le recueillir et à l'utiliser. C'était donc très simple. Manabush, le petit-fils de Nokomi, voyait ça aller et il se disait, oh, les êtres humains vont devenir paresseux. Il faudrait les faire travailler davantage. Sa grand-mère disait, mais avec le long hiver qu'ils viennent de passer, on peut au moins leur offrir cette douceur-là. Mais Manabush n'était pas reconnu pour écouter, bien comme il faut, les consignes de sa grand-mère. Et pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, il est monté au sommet des érables. Il a versé de l'eau dans les érables. Et lorsque les humains ont entaillé le lendemain pour récupérer leur sirop d'érable, bien, celui-ci était dilué. Il était rempli d'eau. Et c'est depuis ce jour-là qu'on est obligé de travailler très, très fort pour enlever l'eau et récupérer donc le sirop d'érable.
C'est une légende qui vient de quelle Première Nation?
C'est une légende qui est commune à plusieurs nations. Donc, il n'y a pas une nation spécifiquement. J'ai cependant une légende qui nous vient des peuples d'origine iroquoienne, donc des peuples qui étaient plutôt sédentaires, qui vivaient là, jusqu'à 25 ans dans le même village, qui pratiquaient l'agriculture. Eux, ils avaient une légende au niveau de la découverte. On raconte donc que Wuxis, le chef, tous les soirs plantait sa hache en pierre, son tomahawk, dans l'arbre. Et son épouse déposait les récipients en argile, en écorce, au pied du même arbre, question de ne pas les entrer à l'intérieur de la maison. Le matin, il reprenait sa hache, retournait à la chasse, et ainsi de suite, tous les jours. Un matin, lorsque sa femme a pris les récipients qui étaient au sol, ils étaient pleins d'eau. Il n'y a pas plu cette nuit. D'où vient cette eau? Bon, c'est pas grave, ça m'évite d'aller jusqu'à la rivière, et elle va l'utiliser pour cuisiner. Elle va donc cuisiner un mijoté toute la journée, donc une sagamité, un repas très consistant, mais quand la famille vient pour s'installer à table le soir, que la famille va prendre une bouchée, elle est sucrée, elle n'a pas la même texture. Tout le monde va se mettre à complimenter la cuisine, jusqu'à temps qu'elle-même, la cuisinière, goûte à ce qu'elle avait préparé, et qu'effectivement, ça n'a pas du tout le même goût, la même texture. On va se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de différent? Elle va retourner là où elle a pris les pots le matin, et elle va constater que sur l'arbre, de la fente laissée par le tomahawk, il y a de l'eau sucrée qui s'écoule et que quand on transforme cette eau-là, bien, elle devient plus épaisse. Donc, c'est vraiment avec des légendes comme celle-là qu'on va expliquer donc, l'origine, comment on aurait découvert l'eau d'érable et éventuellement le sirop d'érable.
Et alors, ici, vous expliquez justement comment les Premières Nations, au-delà de cette découverte, ont commencé à travailler, on va dire, l'eau d'érable, à la récolter d'abord.
Oui, tout à fait. Premièrement, l'eau d'érable, on ne la récolte pas toute l'année. C'est simplement au printemps, la première sève qui monte suite au dégel de l'arbre. Pour le savoir aujourd'hui, c'est facile, on a le thermomètre, on peut voir la température. Autrefois, on se fie à la nature. Lorsque les corneilles reviennent croasser dans les forêts et que le bruant des neiges revient chanter dans les arbres, ce sont nos premiers signes que le printemps arrive. Donc, il fallait se rassembler parce que bien souvent, les peuples nomades, donc de la grande famille linguistique algonquienne, étaient dispersés sur le territoire pour l'hiver. Et à ces premiers signes de printemps, ils vont se réunir ensemble. Et là, on va entailler les érables. Donc, ici, vous avez donc un tronc d'arbre sur lequel j'ai la petite fendille. Et je vais lui insérer une gouttrelle, donc une petite languette de bois. Et on va simplement l'insérer dans la fendille.
Ah oui, ce qui va faire que l'eau va couler.
Oui, exactement. C'est vraiment tout simple, en bois comme ça. Et on va y déposer au sol un panier en écorce, si on est un peuple d'origine nomade. Et si on est un peuple sédentaire, on va y aller avec un pot en argile. Donc, on n'a pas tout à fait la même technique là, à ce niveau-là. Donc, on dépose le récipient et l'eau va couler à l'intérieur. On pouvait ramasser l'eau plusieurs fois dans la journée et on va le ramener jusqu'au campement. Au campement, on va donc aller vers la transformation de cette eau-là.
Alors, on va en face, de l'autre côté du cercle.
Et on a ici un pot en argile. Donc, le pot d'argile pour les peuples iroquois, on a simplement à faire bouillir notre eau d'érable en haut du feu dans le pot en argile. Ce qui est important de savoir, c'est que pour faire un litre de sirop d'érable, ça prend 40 litres d'eau d'érable. Donc, imaginez le travail à faire bouillir dans ces récipients en argile. Mais pour les peuples algonquins qui n'ont que l'écorce, ce qu'on va utiliser comme procédé, ce sont des pierres chaudes. On va mettre des grandes pierres dans le feu pour qu'elles deviennent très brûlantes, très chaudes. Et avec une pince, on va prendre cette pierre et la mettre dans le pot d'écorce. Et ça va faire augmenter la température de l'eau. Et on va alterner les pierres comme ça jusqu'à temps que l'eau se mette à bouillir. Notre eau d'érable va passer de l'eau au réduit. Donc, le réduit est aussi liquide que l'eau d'érable, mais a une coloration qui sera apparente à celle du sirop. Et on poursuit donc jusqu'à temps qu'on obtienne le sucre dur, qui est un sucre granuleux dans lequel il n'y a plus d'eau du tout. Ce sucre-là était mis dans des petits récipients d'écorce pour faire comme des pains de sucre. Et on pouvait conserver ça pour le restant de l'année. Donc, c'était vraiment là, un processus qui était long, mais qui était nécessaire. Parce que ici, dans la forêt, les derniers fruits et légumes qu'on pouvait récolter, qu'on pouvait cueillir, on parle à ce moment-là du mois d'octobre, avec bon, la fin des pommes, on a les citrouilles en octobre. Mais à partir du mois de novembre, il n'y a plus rien de frais qui pousse dans nos forêts. Donc, ça prenait un aliment de survie qui nous permettait, parce qu'on sait ce que ça fait donner du sucre à des enfants, le sucre d'érable, ce n'est pas différent. Ça donne un petit regain d'énergie et c'est à ça qu'on va l'utiliser. Donc, c'était vraiment un aliment qui nous permettait là, de faire le pont entre la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Donc, en plus d'être un moment de célébration, c'est lié à la survie des peuples.
Au premier temps de la colonie, ces grands chaudrons de laiton furent très recherchés. Celui-ci, frappé du 18e siècle, appartient à la famille Ottawa. Il a été transporté sur des centaines de kilomètres, sur les rivières et les lacs, et au cours des portages. On s'en sert donc depuis des générations pour faire la pâte de bleuet et le sucre d'érable.
Ces pots de terre et pots de fer.
Oui, donc lorsque les premiers Européens vont arriver ici sur le territoire, ils vont faire la traite des fourrures, échanger contre des fourrures de castor différents objets qui arrivent de France. Et un de ces objets va être, entre autres, le chaudron de métal. On peut se douter qu'après avoir fait du sirop d'érable dans des pots d'écorce, le chaudron de métal va être le bienvenu. S'il tombe dans la forêt, contrairement à l'argile, il ne va pas se briser facilement. Il va être, il va cabosser, mais ça ne fait pas de lui un objet inutilisable. Et c'est vraiment un outil qui va être très utile dans la fabrication du sirop d'érable et qui va être continué d'être utilisé jusqu'au début 20e siècle. Donc, avant l'industrialisation des procédés, le chaudron en métal, là, en fonte ou en cuivre, ou différents types de chaudrons, vont être utilisés. C'est vraiment, ce sont les Français qui vont les amener au départ. Donc, c'est ce que vous avez ici, un exemple de chaudrons qui ont été amenés là, par les Français au début des temps de la Nouvelle-France.
Ce qui est particulier avec l'histoire de l'érable, je pense, c'est que c'est peut-être un des seuls produits qui est vraiment typiquement le résultat de la rencontre entre les peuples autochtones et les peuples européens.
Catherine Ferland, historienne et spécialiste du patrimoine gastronomique du Québec.
C'est vraiment avec l'arrivée des Français dans la vallée du Saint-Laurent au 17e siècle qu'il va se produire une rencontre, on va dire, entre la technique, la technologie amenée par les Français et cette idée de collecter la sève d'érable qu'on avait déjà du côté autochtone. Et tout à coup, parce qu'on possède dorénavant des chaudrons de métal, ça permet d'aller atteindre un degré, on va dire, là, vraiment de bouillaison qui va permettre d'obtenir un sirop. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler du sucre du pays. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'à l'époque, au 17e, 18e siècle particulièrement, avant l'invention des procédés de raffinage du sucre de betterave et tout ça, il n'y avait pas vraiment de source sucrante ici. Il y avait un peu de miel, mais c'était du miel sauvage. On n'avait pas d'apiculture, des petits fruits peut-être, mais pas tant. Donc, c'était la seule ressource sucrante dont on disposait, et en abondance aussi, il faut le dire, parce que l'érable à sucre produit énormément de sève. Et il y avait vraiment cette idée, à quelque part, même l'érable devient un peu le symbole de l'enracinement, et ça, c'est un très, très beau symbole, d'ailleurs, de cet enracinement culturel du Québec, parce que, à quelque part, le produit devient un peu le dénominateur commun de la culture québécoise, et en même temps, l'érable lui-même devient le symbole de cet enracinement dans le terroir ici. Il y a plusieurs de mes collègues historiens qui ont parlé de société de survivance. C'est intéressant parce que quiconque est venu au Québec et a expérimenté l'hiver québécois avec des rigueurs à moins 30 degrés Celsius peut comprendre l'idée de survivre à ce froid, c'est quelque chose. Pourquoi rester alors que c'est quand même difficile en hiver? Il y a de la neige, comment on fait pour se déplacer d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre? Donc, quand on parle de survie, c'est vraiment tout à fait le terme à employer. Donc, comment l'érable participe à ça? Bien, c'est le produit qui nous arrive après ces longs mois de rigueur. C'est comme la récompense, c'est comme le fil d'arrivée après tous ces mois-là. Et cycle après cycle, année après année, ça se répète. Il y a une espèce de, on disait de la rassurance. Hein? Ça vient rassurer, ça vient... l'hiver est long, mais il y a toujours ça qui va nous attendre au bout et qui va, en quelque sorte, apaiser, adoucir les rigueurs qu'on vient de traverser. Il est certain qu'aujourd'hui, la connotation de survie est très différente, bien sûr, mais je pense qu'on demeure très attaché à ce produit-là. Le sirop d'érable, au printemps, quand vient le temps d'aller à la cabane à sucre, il y a encore bien des familles qui y vont. Là, c'est pas folklorique tout ça. Là. Il y a encore un attachement très, très profond. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit saut dans le temps. Au 19e siècle, quand on a eu le phénomène d'urbanisation, que les gens ont commencé à quitter les campagnes pour aller en ville, c'est à ce moment-là que la cabane à sucre comme phénomène est née. Les gens étaient nostalgiques de cette période-là, de l'effervescence, d'aller assister à la bouillaison, de goûter les premiers sucres, de faire la fameuse tire sur la neige. Hein, vous savez, on coule le sirop très, très épais sur la neige, il fige, on tourne avec un petit bâton, on a une sorte de petite sucette de sucre, c'est complètement fou. Et cet attachement à la cabane à sucre est né de cet exil des populations qui, tout à coup, devenaient urbaines, allaient travailler à l'usine, perdaient un petit peu le contact, mais souvent gardaient un oncle, un cousin, un grand-père à la campagne. Et là, on avait ce retour pendant le printemps, là, où on allait, comme on dit ici au Québec, se sucrer le bec à la cabane.
Et ça continue.
Et ça continue. Tous les printemps, il y a un pèlerinage qui se fait. C'est pas systématique, bien sûr. Faudrait pas quand même imaginer que tous les Québécois en masse se dirigent à la cabane au printemps. Mais il y a vraiment un attachement dans les familles avec les jeunes enfants. Les grands-parents participent. On y va, on mange, on fait bonbons. Il y a aussi, d'ailleurs, il faut le mentionner, la gastronomie autour de la cabane à sucre qui est très particulière, très, très gras, très salé, comme pour contrebalancer tout le sucre qu'on va mettre dessus. On ne mange pas comme ça tous les jours, mais au printemps, tout à coup, on dit « Ah tiens, c'est le temps d'aller à la cabane à sucre. »
Le patrimoine culinaire, les cabanes à sucre. Mais c'est quand même très particulier parce que c'est le jambon à l'érable, c'est les oreilles de Christ, c'est les omelettes, c'est tous ou à peu près le même menu. Ça dure seulement 8 semaines par année, c'est vrai. Mais quand même, c'est comme un événement, moi, je trouve. Ça fait partie de nos veines, de notre ADN.
La majorité des Québécois et des Canadiens de l'Est... Depuis des générations et des générations, on va célébrer le temps des sucres, donc le temps de récolte mars et avril. Puis c'est engrené dans la culture d'aller à la cabane à sucre à chaque année. Pour moi et pour beaucoup de Québécois et de Canadiens, c'est de se ressourcer en forêt, mais aussi avec la famille, avec les amis, de célébrer la fin de l'hiver, célébrer la nouvelle récolte d'eau d'érable et de sirop d'érable. Alors, c'est une fête de la nature et une fête du monde, une fête du peuple.
Quand ça coule, on attend. Et selon la distance, selon le nombre de pots, il se crée un genre de mélodie de gouttes d'eau qui varie selon la cabane à sucre, selon la quantité d'eau qui tombe, selon la distance. Et c'est un des sons que je dirais que je préfère. Hein. Je m'assois ici, là, puis je peux être pendant des dizaines de minutes juste à écouter cette symphonie-là. Sachant que de ce goutte à goutte-là, mes pots vont se remplir et je vais pouvoir produire le meilleur sirop au monde.
Quand on est allé voir Christian Messier dans sa forêt de Saint-Émile de Suffolk, où il vit dans l'Outaouais à 150 km de Montréal, la symphonie des gouttes d'eau d'érable dans les seaux ne se faisait pas encore entendre. Par contre, le bruissement des feuillus denses de l'érable balayé par le vent était fort ce jour-là après une nuit de tempête. La forêt, c'est le domaine de ce scientifique réputé dans le pays, professeur en aménagement forestier et biodiversité, et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la résilience des forêts face aux changements globaux à l'Université du Québec en Outaouais. Et son arbre fétiche, objet d'étude et de passion, c'est bien sûr l'érable à sucre. Une espèce qui, avec l'érable rouge, domine au nord-est des États-Unis, mais surtout au Québec, le long du Saint-Laurent et au sud de la province surtout. Petit tour du propriétaire avec Christian Messier.
Ici, on est vraiment au cœur de la partie érablière que j'exploite. Et si vous voyez des rubans ici, ça, c'est les érables que j'entaille. Donc ça, c'est toutes des érables que j'ai identifiées. La cabane à sucre est un peu au milieu de tout ça. Et c'est très mix, c'est très mélangé.
Ah, il y en a déjà qui ont pris des teintes rouges, des érables.
Ça, c'est l'érable rouge. Hein. Il y a deux érables ici qu'on entaille, l'érable rouge et l'érable à sucre. Et l'érable rouge, dès le mois de fin juillet, début août, va commencer à se colorer souvent.
Et c'est beau ce couvert, parce que là, c'est quand même, il y a un feuillu dense, il y a une ombre.
C'est
on
très
voit
dense.
À peine la lumière.
Et contrairement aux forêts en Europe, nos forêts sont très peu aménagées. Ici, vous imaginez, il y a eu une coupe presque à blanc il y a environ 40 ans. On avait laissé quelques arbres, mais on avait tout récolté et on a laissé la régénération revenir de façon naturelle. Donc, toute cette forêt-là autour de vous, il n'y a aucune espèce qui a été plantée, c'est complètement naturel.
Mais elle est grande, votre forêt, votre érablière, Christian Messier?
La forêt en entier, c'est 40 hectares. Donc, c'est très, très large, mais pour l'érablière, là, c'est 1,5 hectare.
Ah oui, elle est à l'intérieur de la forêt.
Oui, parce que tout est fait à la main. Donc, les érablières industrielles, ils ont des tuyaux, ils ont des pompes. Nous, c'est à la chaudière, on ramasse à la main.
Mais c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on est loin de la vision des érablières où il n'y a que ça. Là, on est dans une forêt où il y a une très grande diversité.
Dans cette forêt-là, il y a environ une quinzaine d'espèces d'arbres.
Qu'est-ce que vous avez?
Ben, on a l'érable à sucre, évidemment, le sapin baumier, très important, bouleau blanc, bouleau jaune, pin blanc, de la pruche, du thuya, du tilleul, l'épinette blanche, l'épinette noire. Ici, on est à la transition entre la forêt tempérée et la forêt boréale. Et j'observe depuis une dizaine d'années que je suis ici que cette forêt-là devient de moins en moins résineuse, de plus en plus feuillue, et c'est vraiment causé par les changements climatiques. Et je ne sais pas si on peut marcher en forêt, je vais vous montrer quelque chose.
On sort du chemin.
Ici, c'est très intéressant parce que vous voyez, les arbres qui sont tombés, c'est beaucoup des sapins. Et ces arbres-là ont tombé dans les 5 dernières années, soit qu'ils sont morts ou qu'ils sont tombés. Et la régénération, c'est de l'érable à sucre.
Mais oui, parce qu'au sol, il y a comme un couvert de tout petit érable. Il y a plein de petites feuilles partout.
Et l'érable à sucre, c'est l'espèce la plus agressive pour se régénérer. Donc, vous voyez ici, dans 100 ans, on va avoir une érablière beaucoup plus importante qu'avant.
Ça fait combien de temps que vous avez cette forêt et l'érablière à l'intérieur?
On est ici depuis 10 ans. Et c'est un peu drôle parce que la première chose que j'ai voulu faire, et j'en ai parlé à mon épouse, la première chose qu'on a fait, j'ai dit, on doit se construire une cabane à sucre. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans cette tradition-là. Quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas une cabane à sucre, mais mon oncle avait une cabane à sucre. Et à tous les printemps, on allait à la cabane à sucre. Et je me souviens très bien, imaginez-vous, il y avait un cheval à ce moment-là qui, avec un traîneau, et on allait en forêt récolter l'eau d'érable. Et c'était un des moments, je dirais, les plus heureux de ma jeunesse, c'était d'aller à la cabane à sucre. Et donc, quand j'ai eu la chance de pouvoir m'établir en pleine nature, j'ai dit à mon épouse, il nous faut une forêt avec des érables à sucre.
On va voir la cabane?
Oui, on va la voir très bientôt. C'est pas très loin. Savoir, ici, on est au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, ce n'est pas une période très active pour la cabane à sucre. Donc, tout est mis au repos. On a tout nettoyé, on a tout rangé. Et donc, on attend la saison d'après. La seule chose qu'on fait, là, vraiment, pendant cette période-là, c'est du bois de chauffage. Parce que pour faire du sirop d'érable, ça demande énormément d'énergie. Il faut savoir que l'eau d'érable qu'on récolte de l'arbre a un taux de sucre de 3 % en moyenne. Et le sirop, 70 %. Donc, il faut bouillir 30 litres d'eau d'érable pour produire 1 litre de sirop d'érable. Donc, il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de soit de gaz, parce que les productions industrielles utilisent du gaz, mais les petites productions plus artisanales comme la mienne, ben, on utilise du bois.
Ben là, vous avez travaillé fort parce qu'on voit la cabane et puis sur le côté, là, dans un appentis, il y a tout le bois.
Je vais vous montrer les réserves de bois de chauffage. Ici, j'en ai à peu près pour 3 ans. Donc, on va entrer dans la cabane qui a été mise au repos. Vous voyez un peu le type d'arrangement. Je vais vous expliquer un peu ce que vous voyez. Ça, c'est la bouilloire. Ça, c'est la bouilloire.
Qu'elle est couverte. C'est une grande cuve en acier.
Ça, c'est une grande cuve en acier. Et quand on apporte le sirop des arbres, on le met dans ce grand contenant-là en haut et qui va venir nourrir l'évaporateur de façon continue.
Ah oui, c'est que l'eau, elle part de la cuve et après, elle va dedans.
Elle descend ici. J'ai un genre de flotteur qui permet de régulariser la quantité d'eau. Et donc, on bouille. On bouille, on bouille, on bouille. Imaginez-vous que ici, on a à peu près 1000 litres et ça va me prendre 15 heures à bouillir tout ça. Et ici, c'est des quantités phénoménales de vapeurs qui sont évaporées. Et vous voyez en haut, il y a des portes.
Ah oui, tout est ouvert en fait.
On a une petite trappe qu'on peut ouvrir. Il faut l'aider un peu, voilà. Donc on peut l'ouvrir et la vapeur va pouvoir sortir de la cabane à sucre. Sinon, on aurait de la condensation et l'eau reviendrait s'égoutter dans l'évaporateur. Donc, ça permet à la vapeur de sortir.
Donc, c'est le sauna québécois, en fait.
C'est vrai que c'est un genre de sauna. Et donc, vous voyez ici, il y a des divisions à l'intérieur. Donc, l'eau brute arrive ici.
Dans la cuve, là, avec l'évaporateur.
Voilà. Ici, vous avez une division avec un trou. Et plus on s'en vient ici, plus ça le bouillit longtemps. Donc, plus
dans les différents racks.
C'est ça. Voilà. Et là, après ça, il y a un tuyau ici qui amène l'eau dans la dernière cuve où là se fait l'évaporation finale. Et là, on mesure ici quand est-ce que l'eau est prête. La méthode traditionnelle, c'est avec la température. Parce que l'eau pure va bouillir à 100 degrés Celsius, mais le sirop à 70 % va bouillir à environ 103-104 degrés.
Mais j'imagine que ça, on peut se fier effectivement au thermomètre, mais il doit y avoir une science aussi un peu personnelle, une intuition. Oui, oui, oui. Je suis sûre que vous avez...
On prend une cuillère et on laisse s'écouler le sirop. Et là, il se forme des gouttes. Et au moment donné où la goutte fait un genre de fil, on sait que le sirop est prêt. J'avoue que depuis quelques années, je me suis procuré un réfractomètre. Un réfractomètre mesure exactement la quantité de sucre. On utilise ça pour les, je pense que pour les jus, différents types de procédés où on veut savoir quel est le taux de sucre. À ce moment-là, ce réfractomètre-là me permet de savoir que j'ai 70 % de sucre exactement.
C'est le scientifique.
Eh oui.
Précis.
Et... Mais j'avoue que je vais toujours regarder à la cuillère.
Il y a une très, très grande variété au niveau des modèles d'érablières. On a des érablières qui comptent quelques centaines d'entailles, alors que d'autres comptent des dizaines et des dizaines de milliers d'entailles. De manière générale, l'érablière moyenne va compter entre 8 et 12 000 entailles.
Simon Doré-Ouellet, directeur général adjoint des producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Les producteurs et productrices acéricoles du Québec, c'est un office de mise en marché du sirop d'érable. Donc, nous, on s'occupe de s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande globale. Donc, il y a des contingents qui sont émis pour la production de sirop d'érable et on administre également la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable parce qu'il faut savoir que le Québec produit 72 % en moyenne là, de la production de sirop d'érable dans le monde. Donc, on a un devoir de s'assurer que l'ensemble des marchés sont toujours approvisionnés adéquatement et on s'assure d'une réglementation commune et de représenter les intérêts là, des producteurs à l'échelle du Québec.
Et donc, ça concerne 13 000 acériculteurs, comme on dit.
On regroupe 8 000 entreprises, 13 000 producteurs et productrices de 12 régions au Québec, là, partout où il y a des érables à sucre, des érables rouges. Maintenant, c'est une contribution économique exceptionnelle aussi au Québec. On parle d'une contribution de plus de 1,12 milliard de dollars au PIB canadien en 2022 et aussi 12 000 emplois au Québec, seulement pour la production et la transformation de sirop d'érable. Donc, ces données-là ne comprennent même pas l'industrie acéricole qui gravite autour de la production et de la transformation, donc les fabricants d'évaporateurs et des différents équipements là, qui sont nécessaires pour la production de sirop d'érable. Donc, toute cette activité-là économique qui est générée par initialement la production de sirop d'érable, bien, ça devient une toile d'araignée de plus en plus grande là, qui fait vivre de nombreuses régions.
Oui, on parle d'or, l'or
ouais, ben, on adresse souvent le sirop d'érable comme l'or blond du Québec. Et pour plusieurs communautés rurales, ça a vraiment cet impact-là. Le sirop d'érable est le moteur économique de leur collectivité. C'est un outil majeur pour lutter contre la dévitalisation. Le secteur acéricole a aussi permis au Québec et au Canada de renverser une tendance lourde de diminution du nombre de fermes qui datait des 80 dernières années. Pour la première fois en 2021, à la suite de notre émission de contingent, il y a eu une augmentation globale du nombre d'entreprises agricoles. Et ça, c'est passé par le sirop d'érable. Donc, c'est vraiment, vraiment une opportunité, un beau levier de développement économique durable sur lequel on peut compter pour les prochaines années.
Une des choses qui m'inquiète beaucoup de ce que je vois dans le développement de cette industrie, c'est qu'on a beaucoup mécanisé la production, aucun problème avec ça, mais on a voulu augmenter la production. Donc, on a commencé à épurer nos forêts pour ne conserver que l'érable à sucre. Donc, si vous allez dans des productions industrielles, dans les forêts, vous allez avoir 95 % des arbres de la forêt, c'est de l'érable à sucre.
Donc, une monoculture.
Une monoculture, parce que c'est l'habitude agricole. Hein. Dans l'agricole, on veut maximiser la production. On va essayer de uniformiser de plus possible nos cultures. Mais on sait, et c'est ça qui est important, on sait de plus en plus que pour avoir une forêt qui est résiliente face au changement climatique, aux insectes, il nous faut une forêt le plus diversifiée possible. Beaucoup d'études ont été faites qui montrent à peu près dans toutes les forêts de la planète que plus vous avez une diversité d'espèces d'arbres, plus vous avez une forêt qui va être capable d'absorber toutes sortes de perturbations et de continuer à produire soit de la biodiversité, soit du carbone, ou soit de l'eau d'érable. Et je donne souvent l'analogie des fonds de pension que tout le monde essaye de se créer pour prendre leur retraite. le conseil qu'on donne aux gens dans leur fonds de pension, c'est diversifier vos investissements, aller investir dans des domaines qui sont tellement différents que peu importe comment l'économie va fonctionner, vous allez avoir un rendement qui est quand même assez stable. C'est exactement le même phénomène en forêt. Essayer d'avoir des espèces qui ont des fonctions, des capacités de réagir très différentes. Et à ce moment-là, il y a peut-être des espèces qui vont être affectées par la sécheresse ou l'augmentation de la température, mais il y en a d'autres qui vont bénéficier de ces changements-là. Et en moyenne, vous allez maintenir une forêt qui est en santé. Et donc, on a fait des études ici, mais ailleurs, et on se rend compte que plus vous avez une diversité d'espèces, plus vous allez avoir, si vous êtes intéressé à l'érable à sucre, un érable à sucre qui est capable de tolérer des extrêmes de température. Si vous avez des insectes, ces insectes-là vont être mieux contrôlés parce que plus vous avez une diversité d'espèces, plus vous avez des prédateurs naturels qui vont contrôler les épidémies. Et donc, vous allez pouvoir maintenir une production qui est durable à long terme.
Mais en même temps, s'il faut faire ça, cette diversité fonctionnelle dans les forêts, il faut renoncer à une petite partie de son érablière, puisqu'on va devoir mettre d'autres arbres, ouais. Donc à moins de production.
Ouais.
Et ça, j'imagine que les producteurs, les grandes érablières, peut-être ont du mal, est-ce que c'est le cas, à accepter le fait qu'il faut renoncer à peut-être 30, 15%, je ne sais pas, de sa production pour planter d'autres arbres?
Oui, on travaille là-dessus. J'avoue que dans l'avis scientifique, j'ai suggéré de toujours conserver au moins 20% de ce qu'on appelle des espèces compagnes. Oui, on va sacrifier un peu de production à court terme, mais on va maintenir des érables qui sont plus en santé, qui vont pouvoir continuer à produire plus longtemps, un compromis acceptable. Face à toutes les menaces qui risquent d'arriver dans le futur, on le voit, on a de plus en plus de sécheresse, des extrêmes de température, de plus en plus d'insectes et de maladies exotiques. Et en plus, c'est triste de penser à ça, mais on sait, par exemple, qu'avec les changements climatiques, dans 70 ans, on risque de perdre l'érable à sucre du sud du Québec. Les conditions vont devenir trop secs et trop chaudes pour l'érable à sucre.
L'hiver.
Et l'hiver ne sont pas... Oui, exactement. Et donc, maintenant, on commence à dire qu'il faudrait faire une migration assistée de l'érable à sucre, commencer à la planter plus au nord. Il y a des expériences qui se font. Par exemple, on plante maintenant de l'érable à sucre en Abitibi, une région où il n'y a jamais eu d'érable à sucre. Et là, maintenant, on s'aperçoit que l'érable à sucre peut pousser, peut survivre.
Parce que c'est au nord-ouest du Québec.
Voilà. Et il y a 30 ans, on aurait planté l'érable à sucre. Il faisait trop froid en Abitibi. On avait des hivers de moins 40, moins 45. Mais maintenant, c'est des conditions propices. Et on pense qu'on se doit maintenant de commencer à faire migrer nos espèces pour nous permettre de continuer à produire du sirop d'érable. Ça ne se fera plus dans le sud du Québec, mais ça va se faire plutôt dans le nord du Québec ou au centre du Québec. Et je pense que c'est une possibilité qu'on doit considérer de façon très sérieuse. D'ailleurs, je dis souvent en blague à mon épouse que le fait d'avoir une forêt ici qui est à la limite de la forêt tempérée nous assure qu'on va continuer à avoir de l'érable à sucre ici au moins pendant 70 ans et que pour nous et nos enfants, on peut être rassuré, on va continuer à produire du sirop d'érable.
Vraiment, l'hiver est long, le printemps s'ennuie. Nuit et jour, je soupire si ta voix sort au printemps. Ta voix sort au printemps.
Ça, c'est ouvert. Bonjour Nathalie, c'est ça?
Oui,
Nathalie
Céline.
Simoneau.
Oui,
c'est ça. Enchantée. Merci de nous recevoir dans votre boutique.
Ben, entrez.
On entre, alors on peut aller derrière.
Absolument.
Parce que comment elle se déploie votre boutique? Parce qu'il y a tous les produits et à l'arrière, ça a l'air d'être des cuisines.
C'est notre cuisine de préparation. En fait, nous, on fait des pâtisseries avec sucre d'érable seulement ici. Donc, tout est préparé à l'arrière. Mais chaque semaine, je reçois ici des gens, des touristes ou des gens de Montréal pour faire une conférence dégustation sur l'érable. Donc, tous les samedis, je reçois des gens. Je fais goûter tous les produits de l'érable. Donc, on part de l'eau d'érable, on fait le sirop d'érable, on cuit un peu plus longtemps, on fait le beurre d'érable, on le laisse refroidir, on le barate tranquillement, donc ça devient tartiné. On cuit un peu plus longtemps, on fait le pain de sucre. On cuit un peu plus longtemps, on fait cristalliser, ça devient le sucre d'érable. Donc, c'est tout le même ingrédient, 100% sirop d'érable, complètement naturel. puis c'est différentes manières de présenter l'érable. Donc ça, c'est le pain de sucre, comme j'ai dit, à râper. Puis, donc c'est ça, je vous ai fait une petite dégustation. Est-ce que ça vous tente d'y goûter?
Ben oui, parce que vous nous avez préparé des belles pâtisseries au sirop d'érable.
Exactement.
Mais pas seulement, parce que là aussi, devant nous, il y a trois différentes sortes de sirop.
Oui.
Et pour le coup, ça vient de votre érablière familiale.
Exactement.
Le domaine des 15 lots.
Voilà. Ben moi, mon frère et ma soeur, on a racheté l'érablière de mes parents, ça fait déjà quelques années. On a 4500 érables, donc c'est vraiment minuscule. On fait ça en famille, c'est artisanal. On bouille encore au bois, donc à l'ancienne. Donc oui, c'est ça, on a trois différentes sortes de sirop. Au Québec, il y en a quatre, mais nous, on en fait trois. Donc le doré, le ambré, le foncé. Mais il existe aussi un sirop très foncé que nous, on n'a pas à notre érablière. Nous, on a une érablière froide, on est dans les montagnes. Le sol, c'est un sol qui est fait de pierre, donc il n'y a pas beaucoup de terre. Donc, on a vraiment des petits arbres, mais les érablières qui sont situées plus près du fleuve, les arbres ont les pieds dans la terre noire. On va peut-être faire un sirop aussi qui est aussi plus foncé, mais nous, on n'en fait pas, malheureusement. Et à partir du début jusqu'à la fin, donc, le sirop devient de plus en plus caramélisé. Et le dernier, le foncé, c'est vraiment comme un caramel brûlé. Est-ce que vous voulez goûter?
Ah ouais, avec plaisir.
J'en avais fait juste un, mais là, je vais vous en faire un autre. Donc, premier sirop de la saison, donc le sirop doré.
Bon, d'abord, évidemment, c'est sucré. Donc, on le sent sur la palette de la langue, on sent le sucre. On sent une onctuosité, c'est ce qu'on va rechercher. On va avoir des goûts vanillés, on va avoir des goûts de caramel, avec des parfums subtils, de boisés, de substances qui vont se partager comme ça. Il y a toute une palette florale que l'on va découvrir lorsqu'on goûte le sirop. Évidemment, à travers tous les producteurs différents et à travers les emplacements aussi, on va avoir des goûts différents. Moi, je considère le sirop d'érable au même titre que l'huile d'olive, que la vanille de Tahiti, que des grands produits, qu'un grand vinaigre de Xérès ou un grand vinaigre balsamique de Modène, un authentique. Moi, je considère le sirop d'érable au même titre, au niveau de la gastronomie, que ces produits-là. Et les gens qui n'auront jamais goûté avant la fin de leur vie un sirop d'érable font une erreur. Parce que y goûter, c'est l'aimer et le garder. J'en suis certain.
Parce que l'érable et sa feuille, c'est aussi l'emblème national du Canada. Il existe même au Québec un grand ambassadeur de l'érable, en la personne de Philippe Mollet, que vous venez d'entendre. Ce Français, spécialiste de la gastronomie, travaille aujourd'hui auprès de chefs de renom qui désormais revisitent l'érable dans une cuisine hyper contemporaine, qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout à Montréal. Merci à Laura Larry pour ce voyage, ainsi qu'à Geneviève Archambault et toute son équipe de Tourisme Montréal pour leur accueil. Merci à tous les passionnés d'érable qui nous ont guidés dans ce voyage. Parmi eux, Stéphane Fauché de la Sucrerie de la Montagne, que vous avez entendu, ainsi qu'Anne Fortin, fondatrice de la librairie gourmande située à Montréal au marché Jean Talon. Et justement, si vous allez à Montréal et voulez faire le plein de sirop, allez dans ce célèbre marché où tous les terroirs de l'érable sont représentés, histoire de vous sucrer le bec. Auditeurs, si loin si proche, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de la Radio Mondiale.